Lettre encyclique Dominum et Vivificantem du souverain pontife Jean-Paul II sur l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du monde. Introduction. Dans sa foi en l'Esprit Saint, l'Église proclame qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. C'est ce qu'elle proclame dans le symbole de la foi, dit de Nicée-Constantinople, du nom des deux conciles, de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, où il fut formulé ou promulgué. Il y est dit aussi que l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. Ces paroles, l'Église les reçoit de la source même de la foi, Jésus-Christ. En effet, selon l'évangile de Jean, l'Esprit Saint nous est donné avec la vie nouvelle. Comme Jésus l'annonce et le promet au grand jour de la fête des Tentes, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et l'évangéliste explique, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. C'est la même comparaison de l'eau que Jésus emploie dans le dialogue avec la Samaritaine, quand il parle de la source d'eau jaillissant en vie éternelle, et dans le dialogue avec Nicodème, quand il annonce la nécessité d'une nouvelle naissance d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Par conséquent, l'Église, instruite par la parole du Christ, puisant dans l'expérience de la Pentecôte et dans son histoire apostolique, proclame depuis le début sa foi en l'Esprit Saint, celui qui donne la vie, celui par qui Dieu, un et trine insondable, se communique aux hommes, établissant en eux la source de la vie éternelle. Cette foi, professée sans interruption par l'Église, doit être sans cesse ravivée et approfondie dans la conscience du peuple de Dieu. Depuis un siècle, cela a été proposé plusieurs fois. De Léon XIII, qui publia l'encyclique Divinum Iliud Munus en 1897, entièrement consacrée à l'Esprit Saint, jusqu'à Pie XII, qui, dans l'encyclique Mystici Corporis, publiée en 1943, présentait l'Esprit Saint comme le principe vital de l'Église où il est à l'œuvre en union avec le chef du corps mystique, le Christ. Et jusqu'au Concile œcuménique Vatican II, qui a fait comprendre qu'une attention renouvelée à la doctrine sur l'Esprit Saint était nécessaire, comme le soulignait Paul VI, à la christologie et spécialement à l'ecclésiologie du Concile doivent succéder une étude nouvelle et un culte nouveau de l'Esprit Saint, précisément comme complément indispensable de l'enseignement du Concile. Ainsi, à notre époque, la foi de l'Église, la foi ancienne qui demeure et qui est toujours neuve, nous appelle à renouveler notre approche de l'Esprit Saint, comme celui qui donne la vie. En cela, nous sommes aidés et encouragés par notre héritage commun avec les églises orientales, qui ont conservé jalousement les richesses extraordinaires de l'enseignement des Pères sur l'Esprit Saint. C'est pourquoi on peut dire aussi que l'un des événements ecclésiaux les plus importants de ces dernières années a été le 16e centenaire du premier concile de Constantinople, célébré simultanément à Constantinople et à Rome en la solennité de la Pentecôte de l'année 1981. Dans la méditation sur le mystère de l'Église, l'Esprit Saint est alors mieux apparu comme celui qui ouvre les voies conduisant à l'unité des chrétiens, comme la source suprême de l'unité qui vient de Dieu lui-même et que saint Paul a exprimé particulièrement par les paroles prononcées fréquemment au début de la liturgie eucharistique. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est dans une telle orientation que les précédentes encycliques, Redemptor Hominis et Dives in Misericordia, ont trouvé en quelque sorte un point de départ et une inspiration. Elles célèbrent l'événement de notre salut accompli dans le Fils envoyé par le Père dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À cette même orientation répond aujourd'hui la présente encyclique sur l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Personne divine, il est au cœur de la foi chrétienne et il est la source et la force dynamique du renouveau de l'Église. Cette encyclique découle du plus profond de l'héritage du Concile. En effet, les textes conciliaires, par leur enseignement sur l'Église elle-même et sur l'Église dans le monde, nous invitent à pénétrer toujours mieux le mystère trinitaire de Dieu, en suivant la voie évangélique, patristique, liturgique, au Père par le Christ et dans l'Esprit Saint. De cette manière, l'Église répond aussi à certains désirs profonds qu'elle pense lire dans le cœur des hommes d'aujourd'hui. Une découverte nouvelle de Dieu dans sa réalité transcendante, d'esprit infini, tel que Jésus le présente à la Samaritaine. Le besoin de l'adorer en esprit et en vérité. L'espoir de trouver en lui le secret de l'amour et la puissance d'une création nouvelle. Oui, vraiment celui qui donne la vie. L'Église se sent appelée à cette mission d'annoncer l'Esprit, alors qu'avec la famille humaine, elle arrive au terme du second millénaire après le Christ. Devant un ciel et une terre qui passent, elle sait bien que les paroles qui ne passeront point revêtent une éloquence particulière. Ce sont les paroles du Christ sur l'Esprit Saint, source inépuisable de l'eau jaillissant en vie éternelle, vérité et grâce du salut. Elle veut réfléchir sur ces paroles, elle veut rappeler ces paroles aux croyants et à tous les hommes. Tandis qu'elle se prépare à célébrer, comme on le dira en son temps, le grand jubilé qui marquera le passage du deuxième au troisième millénaire chrétien. Naturellement, les réflexions qui suivent n'ont pour but d'examiner de manière exhaustive la très riche doctrine sur l'Esprit Saint, ni de privilégier telle ou telle solution des questions encore ouvertes. Elles ont comme objectif principal de développer dans l'Église la conscience que l'Esprit Saint la pousse à coopérer à la réalisation totale du dessein de Dieu qui a fait du Christ le principe du salut pour tout le monde entier. Fin de l'introduction.